L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors, chers auditeurs, je joue cette semaine une revanche. C'est arrivé une fois dans l'histoire de l'émission, mais vers 2010, je suis allé interviewer Hervé Kempf dans un bistrot parisien. Et à la suite d'un problème technique, la prise de son n'a pas été utilisable. Si vous ne connaissez pas encore Hervé Kempf, vous allez comprendre pourquoi j'ai été très, très triste à l'époque. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour Nicolas.
Alors, vous êtes journaliste et écrivain, vous avez travaillé pour plusieurs médias et parallèlement, vous avez fondé le site Reporter en 2007, spécialisé dans les questions écologiques et dont je vous conseille, chers auditeurs, la lecture. Vous venez de quitter la direction de la rédaction en avril, après 12 ans de bons et loyaux services, en passant la main à Mélie Monger. Ça veut dire que vous avez pris votre retraite ?
Oui, enfin, je la prends le 1er juillet pour être précis, mais oui, je suis tout à fait dans l'état d'esprit de prendre la retraite. Après, je me rends compte que j'ai quand même pas mal bossé depuis 44 ou 46 ans. Enfin bref, longtemps quoi.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à créer Reporter justement ?
Au début, c'est une longue histoire. En 1989, avec quelques amis, on s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun journal sur l'environnement, comme on disait à l'époque, alors qu'il y avait évidemment déjà un besoin de raconter ce qui se passait à la planète, ce qui se passait sur la planète, dans la biosphère. Donc on avait créé ce journal déjà, qui avait bien marché, mais comme on était très démunis financièrement, on avait dû arrêter. Et puis en 2007, donc bien longtemps après... Après, j'ai toujours travaillé sur les questions d'environnement. J'étais journaliste spécialisé sur l'environnement, sur l'écologie, comme on dit plutôt maintenant, soit par le biais de l'économie, soit par le biais de la science, soit par le biais du journalisme tout court. Et puis en 2007, je travaillais au journal Le Monde et j'ai publié « Comment les riches détruisent la planète ». Et pour accompagner le livre, pour montrer que les idées qui étaient exposées se concrétisait dans l'actualité quotidienne, j'avais créé ce petit site internet, reporter.net, et puis en 2012, Le Monde m'a censuré, donc on est rentré en conflit et j'ai quitté cet honorable, enfin moins honorable maintenant qu'il ne l'était à l'époque, parce que dans le temps, Le Monde était un journal libre et maintenant il l'est beaucoup moins puisqu'il appartient à des milliardaires. Bref, et j'ai quitté Le Monde et donc j'ai réactivé, on a fait grandir Reporter, on l'a transformé en un site personnel, on en a fait un journal d'information professionnelle rémunérant les journalistes qui y travaillaient, parce que le journalisme est un travail et comme tout travail, il mérite salaire. Et voilà, on a très bien grandi, on a trouvé, je pense, le ton et surtout l'utilité, puisqu'il est plus crucial, plus vital que jamais, d'informer sur l'écologie.
Alors je reprends les termes employés sur le site. Reporter, c'est un média sans publicité, sans actionnaire, un accès libre pour que l'information soit à la portée de toutes et tous. Chaque mois, ce sont plus de 2 millions de visiteurs uniques et une bonne santé financière, selon un article que vous avez publié en avril, justement, lors de votre départ. Quelles sont, selon vous, les raisons de ce succès en trois mots ?
Utilité. Nous produisons une information utile. Je dirais indépendance. Nous sommes totalement indépendants. Et nous ne vivons que des dons d'électrices et d'électeurs. Et la troisième point, je dirais transparence, c'est-à-dire que les gens savent que ce que l'on dit, c'est vrai, que quand il peut arriver qu'on fasse des erreurs, ce sont nos erreurs, c'est pas parce que quelqu'un nous dit d'écrire quelque chose, et qu'on dit ce qu'on est, on essaie d'être cohérent avec les valeurs que l'on propage, on publie évidemment nos comptes, c'est le minimum, donc voilà, je dirais utilité, indépendance et transparence.
Quel rôle le journalisme a joué dans la transition écologique ?
Ben, malheureusement très faible, puisqu'il n'y a pas de transition écologique. On est au contraire dans une phase de régression. Et le journalisme, précisément, à accepter d'être domestiqués, plus que jamais, puisque maintenant la majorité des médias appartiennent à des milliardaires, à des puissances financières, tous ces gens qui nous conduisent dans une catastrophe de manière maintenant complètement assumée. Et c'est vrai qu'on pourrait, je le fais, voilà, je l'assume, reprocher à cette profession, à cette corporation de ne pas s'être battue suffisamment. Je reprenais l'exemple du Monde, qui était un très très beau journal, qui dans une certaine manière continue à être important et à tenir un rôle d'information à peu près correct. Mais voilà, quand j'y étais, la rédaction ne s'est pas battue pour son indépendance, vraiment.
Ils ne sont pas bâillonnés, c'est de l'autocensure essentiellement ?
Alors, on va oublier le cas de ce journal qui n'est qu'un parmi plein d'autres et qui n'est pas le pire, mais non, c'est très clair. Il y a un adage simple dans l'information, qui paye commande. Et je me demande si d'ailleurs ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, il suffit de voir à qui appartient un journal, à qui appartient un média, et vous savez ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que va faire M. Bolloré, ou M. Arnault, ou M. Niel, ou M. Kretinsky, ou M. Bouygues, ou M. Enfin, il y en a une tripotée, hein. Et la liste n'est pas finie. Eh bien, ils vont nommer un directeur, qui va nommer un directeur de la rédaction. Et ce directeur de la rédaction sera exactement sa marge de manœuvre, qui est tu peux raconter à peu près tout ce que tu veux, à condition que ça ne mette pas en cause les intérêts que nous défendons, nos propres intérêts, et que tu défendes une ligne rédactionnelle qui est notre façon de voir le monde. Donc voilà, et la marge de manœuvre des journalistes à partir de ce moment-là, quand ils acceptent de rentrer dans ce système, est extrêmement limitée. Alors la bonne nouvelle, quand même, parce qu'autrement, le système médiatique est devenu quand même un champ de ruines morales et intellectuelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une presse indépendante qui se développe. Il n'y a pas que Reporter qui vit bien. Et c'est important de dire aussi que la presse indépendante peut bien se porter. Parce que ça veut dire que le post-capitalisme est possible. Il est possible de bâtir un monde, de faire grandir un monde écologique, juste, joyeux et indépendant de toutes ces puissances financières. Et donc, il y a toute une presse indépendante qui se développe maintenant, qui depuis 15 ans a pris une place importante. Mediapart aussi, Street Press, Basta, on pourrait citer dans le domaine écologique L'Âge de Fer, Silence, Actu Environnement, enfin j'en oublie. Et voilà, il y a vraiment une efflorescence importante, Blast, Le Média, L'Humanité qui recommande à faire du bon travail, et puis beaucoup de journalistes indépendants, des radios comme celle qui me fait l'honneur de m'interviewer aujourd'hui. Voilà, il y a quand même une bataille des jeunes journalistes ou des moins jeunes, des gens soucieux d'indépendance qui se bagarrent et qui font qu'il y a quand même encore une presse qui tient un peu debout dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est absolument important, la presse, il faut le rappeler, c'est absolument essentiel d'avoir des gens qui se préoccupent de mettre le projecteur sur les zones d'ombre de notre société, Dieu sait qu'elles sont importantes, et voilà, et qui projette la lumière sur les zones d'ombre et qui essaye de raconter factuellement quoi, qui, où, quand, comment, et ce dont nous avons le plus urgent besoin, parce que la façon dont on représente le monde a une influence sur chacune et chacun d'entre nous, moi y compris. J'écoute la radio le matin comme tout le monde, et si j'ai des radios qui me racontent n'importe quoi ou qui simplement me racontent certaines choses mais me font le silence sur d'autres sujets absolument préoccupants, eh bien ma vision et ma journée va en être orientée.
Alors, vous êtes aussi écrivain, comme on l'a dit. Ce n'est pas le seul, mais l'un de vos livres les plus marquants, enfin ceux qui vous ont fait connaître, celui qui vous a fait connaître un peu en tant qu'écrivain, vous en avez parlé, c'est « Comment les riches détruisent la planète », publié donc en 2007. Ce livre explore donc la façon dont les inégalités sociales et la consommation excessive des plus riches contribuent à la destruction environnementale. Il a été traduit en plusieurs langues et a eu un impact significatif sur le débat public à l'époque. Alors, environnement et justice sociale sont pour vous indissociables, donc pouvez-vous nous expliquer la logique de votre pensée et comment les inégalités sociales sont-elles liées aux questions écologiques ?
Oui, alors avant d'expliquer cela, je vais faire deux remarques. La première, c'est que je ne me considère pas comme écrivain, parce que pour moi, un écrivain, c'est plutôt un écrivain de fiction, qui va mettre une puissance imaginative en racontant une histoire et qui jettera un regard sur le monde très souvent merveilleux et très pertinent.
Donc vous écrivez de très longs articles, reliés, brochés.
Non, je dirais que je suis essayiste, ce qui est une démarche différente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la recherche d'une expression attrayante, etc. Mais c'est une logique un petit peu différente. Donc je me considère comme essayiste. Je ne sais pas si j'aurai l'imagination pour être écrivain, mais voilà, j'essaye de raconter le monde en rassemblant sur une plus grande longueur, justement, qu'on ne peut le faire dans des articles, des faits, et en montrant des processus logiques, des argumentations qui produisent une représentation du monde, pour employer des grands mots, dont j'espère qu'elle aide mes concitoyennes et concitoyens à penser. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que comment les riches détruisent la planète, comme vous l'avez dit, a joué un rôle, et on l'a refait en bande dessinée. Enfin, c'est un autre livre qui a d'autres idées, mais avec Juan Mendes, et j'ai eu beaucoup de plaisir.
Et qui s'appelle toujours « Comment les riches ravagent la planète, et ce qui est intéressant, et comment les en empêcher ».
Voilà,
et on en parlera après.
Bon, d'accord, mais voilà, cet exercice de BD était absolument réjouissant et permet de raconter d'autres choses et peut-être à d'autres gens, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plaisir à le faire. Alors pourquoi ? Parce que le cœur du truc, vous l'avez bien compris, c'est effectivement l'articulation entre la question de la justice sociale et de l'écologie. Et tout le propos de ce livre est de le dire, parce qu'à la base, moi, je suis un écologiste et quelqu'un préoccupé de la bonne santé de notre planète, et qui est la condition que les uns et les autres, nous ayons une vie sociale normale.
Libre et tranquille.
Voilà. Peut-être tout simplement qu'on a tous la préoccupation d'exercer un métier qui a du sens, de faire vivre nos enfants et notre foyer, d'avoir des amis, d'être utile à la société, de s'occuper de nos vieux, de bien s'occuper des enfants. Voilà, la majorité des gens ont des ambitions et qui sont celles-ci. Et voilà. Peut-être tout simplement. Et donc pourquoi est-ce que la constitution de cette oligarchie d'ultra-riches extrêmement dangereux, pourquoi ils sont dangereux ? Bah parce que précisément, ils nuisent à ce contrat social implicite. Et pourquoi ? Par quel mécanisme ? Selon moi, et je m'appuie sur la théorie d'un économiste de la fin du 19e siècle qui s'appelle Thorstein Veblen et qui développait la théorie de la rivalité ostentatoire. Et en deux mots, je vais essayer de la résumer très simplement. Selon Veblen, tous les individus ont une tendance, et ce n'est pas une tendance agressive ou violente ou négative en soi, mais à marquer une certaine différence par rapport à ceux qui vivent à côté de nous. Et ça sera une différence vestimentaire, par les objets qu'on possède, par quelques signes extérieurs qui signifieront que nous sommes un petit peu différents des autres. Peut-être que d'une certaine manière, nous avons une personnalité. Et poursuit Veblen, dans les sociétés hiérarchiques, les individus d'un groupe social, ils les appellent classe, pas au sens marxiste, mais enfin, il emploie bien le terme de classe. Et donc, selon Veblen, dans une société hiérarchique où il y a des classes, eh bien, les individus d'une classe qui sont en proie à cette rivalité ostentatoire vont trouver le modèle de ce qui leur permet d'avoir cette petit signe de prestige en imitant ceux et celles qui sont au-dessus d'eux, qui eux-mêmes sont en proie à la même rivalité ostentatoire et qui, pour trouver les signes d'un statut ou d'un prestige un petit peu supérieur aux gens avec qui ils vivent, qu'ils côtoient, imitent ceux et celles qui sont au-dessus. Et ainsi de suite, de bas en haut, ce qui fait qu'on se retrouve tous à imiter, à un degré évidemment très différent selon notre position sociale et surtout nos revenus, la façon de vivre de celles et ceux qui sont tout en haut. Et celles et ceux tout en haut sont évidemment en proie à la rivalité ostentatoire, encore plus délirante que vous et moi. Bezos va avoir le plus grand yacht du monde, Musk va avoir la plus grande fusée, Monsieur Bolloré va avoir le plus bel avion. Enfin voilà, ils sont tous dans ce délire de course à la puissance, à la prodigalité. Et qu'est-ce que ça signifie ? Parce que, une fois de plus, notre préoccupation, c'est l'écologie. Et bien, dans une société très inégalitaire, comme celle qui est devenue notre société, qui a en plus une culture mondiale, c'est-à-dire que les modèles culturels propagés par les sociétés et les classes les plus riches vont influencer l'ensemble des 8 milliards d'humains que nous sommes maintenant, eh bien, le gaspillage insensé qui est produit en haut, avec leurs fusées, leurs yachts, leurs maisons immenses, leurs avions, leurs voitures énormes, etc., eh bien, va influencer l'ensemble de la société et donc nous pousser à avoir une culture matérielle beaucoup plus importante que ce que peut supporter la biosphère. Parce que si on veut résoudre la question écologique, en fait, ça se résout de manière très simple, dans le principe. Il faut réduire notre consommation matérielle globale et réduire notre consommation énergétique globale. Et donc si on a à cause de cette inégalité un modèle culturel de surconsommation et de gaspillage insensé, eh bien cela provoque la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes. Donc il faut réduire les inégalités de manière drastique. D'abord pour changer ce modèle culturel global et puis ensuite avec d'autres aspects économiques qui sont eux aussi tout aussi importants.
Oui, et puis c'est cette ostentation dans une société thermo-industrielle, c'est-à-dire liée à la production, à l'accaparement des richesses. Et donc, ça n'est que l'aboutissement de ça, c'est-à-dire avec une société qui aurait des valeurs et une construction différente, l'ostentation se ferait différemment et peut-être avec autre chose.
Oui, vous avez raison, parce que ce mécanisme de la rivalité ostentatoire se retrouve dans un très grand nombre de sociétés. En fait, à partir, Veblen était parti d'exemples de sociétés du nord-ouest des États-Unis, les Quakiut, les indigènes du nord-ouest des États-Unis qui pratiquaient le potlatch, et c'est ça qui lui a donné le concept de la rivalité ostentatoire, et qu'on retrouve effectivement dans beaucoup de sociétés. Mais celle, la période historique dans laquelle nous sommes, comme vous l'avez dit, c'est cette société thermo-industrielle. Donc, au lieu de se faire par d'autres aspects, la rivalité ostentatoire se traduit par une consommation matérielle insensée.
On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter ?
À brûle pour point. Moi, j'aime toujours London Calling des Clash.
Alors nous sommes de retour avec Hervé Kempf. Hervé Kempf, donc journaliste, créateur de Reporters qu'il vient de quitter, essayiste également, on l'a vu, donc dans ce grand combat contre le capitalisme, qui pour vous est vraiment l'ennemi de l'environnement et de la transition nécessaire pour avancer dans le temps. L'économie et la finance, du coup, peuvent-elles devenir des alliés de la transition écologique ? Est-ce que vous croyez au développement durable ? Vous avez écrit que crève le capitalisme pour sauver la planète. Rien n'est possible pour vous sans révolution complète du système ?
Alors, je vais reprendre votre première question. C'est l'économie, c'est pas mal en soi. Et c'est un exemple de la propagande que nous subissons de nous faire croire que le capitalisme et l'économie, de la même manière qu'on va nous faire croire que la bonne santé économique, c'est la croissance, ou qu'on va nous dire qu'il n'y a pas d'autre économie possible que l'économie de marché qui investit tout. Donc non, l'économie, c'est ni bien ni mal, c'est une façon d'échanger les utilités sociales et les objets et les services dans une société en transformant les matières naturelles dont nous avons besoin pour en faire le décor quotidien de notre existence. Donc en soi, l'économie existe. Mais donc voilà, l'économie n'est pas... Tout à l'heure, je vous parlais de reporters et je disais qu'on allait bien, non pas pour nous en vanter. Et je suis content qu'en Mediapart et plein d'autres médias indépendants vont bien, mais pour dire qu'on peut sortir des logiques capitalistes. On peut avoir, par exemple, le fait d'avoir une échelle de salaire limitée, et ben fait que du coup, il ne va pas y avoir une partie des gens, des cadres supérieurs qui vont s'approprier une grande part de l'excédent qui est produit. Le fait de ne pas avoir d'actionnaires fait que tout l'argent, comme dans les coopératives, va être réinvesti dans l'entreprise. On va, s'il y a un excédent, ce qu'il faut souhaiter, le partager à part égale, quel que soit le statut dans l'entreprise, et on va mettre une part de côté en matière de sécurité. Donc en fait, moi par exemple, je
découvre... Et on peut investir. C'est-à-dire souvent, les lobbies et ne veulent pas changer parce que ça coûte de l'argent de changer de modèle. Alors que si cet argent ne va plus vers la finance, il peut être réutilisé pour changer de modèle plus vertueux.
Mais c'est pas que ça coûte de l'argent, c'est que ça les empêche de voler l'argent. Voilà, il faut dire clairement les choses. Les ultra riches volent l'argent. La finance vole l'argent. Monsieur Bolloré et Monsieur Niel et Monsieur Arnault volent l'argent. Les fortunes des ultra riches ont augmenté de 40% depuis le Covid. Est-ce qu'ils ont été plus intelligents et plus vertueux de 40% depuis l'épidémie de Covid en 2020? Évidemment non. Donc l'économie, et une fois de plus, non seulement l'économie est indépendante de la forme historique particulière qu'est le capitalisme, mais on est maintenant dans une situation où le capitalisme est devenu une mauvaise économie. C'est une mauvaise économie parce que ça détruit l'environnement. Si j'ai le temps, j'expliquerai pourquoi, au-delà même de la question de la rivalité ostentatoire. C'est une mauvaise économie parce que ça repose sur une inégalité énorme qui crée donc du trouble social de manière grave, en laissant de côté, dans la misère la plus grande ou dans une précarité la plus grande, une très grande partie de la population, ce qui déjà en soi est, j'allais dire, moralement inacceptable et qui en plus va évidemment créer des troubles sociaux, pour dire le mot le plus faible, à l'avenir. Voilà, c'est une très mauvaise économie. Donc non, il faut vraiment s'enlever l'idée que l'économie, c'est le capitalisme. Au contraire, il faut se dire on peut tout à fait aller dans le post-capitalisme. Et le post-capitalisme, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple que je vous ai donné de la coopérative, où on a une vision équitable des choses, où on met de l'argent de côté, où on ne surpaye pas les gens et où on réinvestit dans l'outil de travail collectif, peut être une économie beaucoup plus efficace que ne l'est l'entreprise capitaliste à l'heure actuelle. Et puis, une autre chose très importante dans le système capitaliste et dans ce type d'économie, c'est le concept d'externalité. Alors, vous allez comprendre, c'est apparemment impressionnant comme mot, mais c'est très clair. Ça a été développé par des économistes dans les années 1930. L'externalité, ça va être quand une entreprise fabrique quelque chose, il va y avoir des coûts environnementaux, par exemple. Elle va relâcher, mettons, des gaz dans l'atmosphère, elle va polluer une rivière, elle va produire des déchets. Eh bien, le système capitaliste fait en sorte que l'entreprise ne paye pas ses coûts. Ils vont être supportés par la société, ces coûts externes. L'entreprise capitaliste et le capitaliste ne va compter que la recette monétaire qu'il va faire, les dépenses qu'il a engagées, et il va prendre le profit. En disant, le profit, c'est pour moi, je suis un libre entrepreneur. Et en fait, c'est nous, la société, qui allons porter les externalités, par exemple la pollution atmosphérique et les émissions de CO2, qui ne sont pas du tout portées par les entreprises qui les produisent.
Les gens comprennent assez bien le système avec l'agriculture, puisqu'on dit le bio, c'est cher, mais on ne compte pas dans les externalités donc de l'agriculture conventionnelle, les coûts sur la santé, les coûts sur le traitement des eaux que nous payons collectivement.
Vous avez absolument raison, c'est un très bon exemple, et on peut prendre le pesticide aussi, où maintenant c'est de manière claire que une large partie de la pandémie de cancer que notre société subit, je ne dis pas tout, mais une large partie de cette pandémie est liée à l'abus de pesticides, et les producteurs des pesticides, comme les entreprises qui les distribuent, ne payent pas l'externalité, c'est-à-dire le coût social énorme que représentent les dégâts sur la santé des pesticides. Et on conçoit très bien que si l'on avait une alimentation saine, sans pesticides, avec beaucoup moins d'engrais, moins de produits chimiques, on aurait un coût du travail et peut-être un coût des produits alimentaires qui serait plus élevé, et ça serait normal. En revanche, on aurait des coûts externes, c'est-à-dire des déficits de la sécurité sociale et des coûts de santé, sans même parler de la souffrance que subissent les gens malades, eh bien, tous ces coûts seraient très inférieurs et au total, on aurait une économie agricole et alimentaire beaucoup plus équilibrée et bien meilleure pour la société. C'est un très bon exemple que vous avez cité là.
On a beaucoup d'informations. On sait de plus en plus qu'il faut changer les choses. On sait qu'on va dans l'impasse. On sait que les pesticides provoquent des cancers. Pourtant, on a l'impression, et d'ailleurs, on a l'impression qu'elle commençait, que l'écologie, la conscience écologique commençait à infuser dans toutes les classes sociales. Mais j'ai l'impression qu'on observe désormais un reflux à la fois chez les riches et à la fois chez les classes populaires. Est-ce que vous partagez ce constat d'abord? Et si oui, quelles en sont les raisons selon vous?
Je ne partage pas exactement. C'est-à-dire que je pense que les ultra-riches ont fait le choix depuis des années, c'est ce que j'ai documenté, mais d'autres le font aussi, je pense, font le choix d'abandonner la démocratie. Ils ont, et notamment dans la pointe avancée du capitalisme qui est la Silicon Valley, et dont Musk, Bezos, Zuckerberg, les gens qu'on a pu citer, sont la pointe avancée idéologique, se sont reformés une vision de l'avenir où tout passera par la technologie, où l'intelligence artificielle va devenir, par hybridation avec l'humanité, un nouvel état de l'humanité, et donc admettre tout à fait qu'il y aura une petite minorité de riches, que parfois ils appellent même les surhommes, qui seront et qui vivront dans on ne sait quel avenir. Et puis le reste de la société, les classes inférieures, comme ils disent, végéteront dans les dégâts du changement climatique et de la catastrophe écologique dans laquelle nous commençons à rentrer. Et donc ils ont fait ce choix délibéré. Ils ne prennent pas l'écologie au sérieux. Ils ne prennent pas l'écologie au sérieux. Et ils ont même fait le choix, de par les médias qu'ils possèdent, de répandre des idées fausses sur ce dont nous parlons, de minoriser la question écologique et de mettre l'accent sur des enjeux de sécurité, d'immigration, de danger, de xénophobie, de racisme. Et donc, fatalement, ça influence l'opinion. L'opinion est... et aussi ce qu'elle entend par les médias qui appartiennent à ces personnes.
Et en France, vous les avez cités tout à l'heure, à une catégorie d'ultra-riches, souvent sectaires, qui se nourrissent en fait de la haine des uns envers les autres et envers l'étranger et l'écologiste en particulier.
CNews, Europe 1, Le Figaro, Valeurs Actuelles, on peut faire toute la liste et qui influence des médias un peu plus, même la radio publique. France Inter est très influencée par sa direction qui est aux ordres de Macron et qui va de plus en plus vers le choix de l'extrême droite, pour ne pas dire le fascisme. Donc on a cette situation. D'une part, et s'il y a un reflux apparent de cela, c'est parce que c'est poussé par tous les moyens dont disposent ces gens-là. Par exemple, la fameuse prétendue révolte paysanne qui a eu lieu en 2000, début 2024, et qui correspondait à un sentiment très fort chez beaucoup. Vous-même, Nicolas, vous m'avez dit que vous êtes paysan agriculteur. Moi, j'en croise beaucoup parce que pour mille raisons. D'abord, celle d'un intérêt personnel, intellectuel et même amical avec beaucoup de paysans. On sait cette souffrance qui est liée au fait que les paysans et les agriculteurs travaillent comme des bœufs, on va le dire, pour un revenu qui est insensé. Et donc, ce grand désordre de la société, ils le ressentent très vigoureusement. Mais par qui sont-ils manipulés? Par la FNSEA, par ce type de syndicats qui, en fait, sont aux ordres de l'agro-industrie et qui mettent en place la disparition de la paysannerie. C'est ça, la vérité.
Ils défendent ceux qui, au final, qui provoquent leur ruine.
Voilà, mais beaucoup d'agriculteurs se sont joints à cette révolte qui, en fait, a été totalement manipulée et orientée par la FNSEA et ce type de médias dont on parlait qui sont aux mains de ces ultra-riches qui veulent développer, en fait, une agriculture ultra-productiviste avec des drones, des pesticides, des engrais, des OGM, il y a un nouveau nom, et puis qui conserveront une petite agriculture de niche pour l'agriculture bio pour les très riches. Parce qu'évidemment, les milliardaires savent très bien qu'il ne faut pas manger de la bouffe avec les les pesticides. Donc voilà, on a une fois de plus un exemple. Et donc, il n'y a pas de reflux. Contrairement à ce que les médias nous disent, il y a eu par exemple une étude qui est publiée dans un journal scientifique Nature récemment, qui est une grande enquête d'opinion sur des dizaines de milliers de personnes dans, je crois, une dizaine de pays. Et ce qui en ressort, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que la grande majorité des gens, même aux États-Unis, disent qu'il faudrait que nos gouvernements prennent plus de mesures par rapport au changement climatique. Nous ne faisons pas assez. Nous savons qu'il y a un problème et il faudrait faire plus. Après, les gens ne savent pas, ils n'ont pas de moyens d'action. Et parfois, ils se disent, et comme quand on vous parle tous les jours d'Arabes, de migrants, de sécurité, de faits divers, de violences, d'immigration, etc., même si vous savez que le temps ne va plus et que le monde est en train de changer, vous finissez par croire ce que vous entendez à la radio et ce que vous voyez à la télé.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.